Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Léa Sabourin, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Aliette Ovine. À la réalisation, Anna Olvek, prise de son, Alice Seyed.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
L'actualité économique nous emmène aujourd'hui au cœur des débats autour de l'assurance chômage, une assurance que le gouvernement entend bien réformer malgré l'échec des négociations entre les syndicats de salariés et les organisations patronales. Pour la première fois depuis 1982, l'État va donc édicter sans les partenaires sociaux les nouvelles règles visant à redresser les comptes de l'UNEDIC. L'objectif est de faire au moins 1 milliard d'euros d'économies par an jusqu'en 2021. Et pour cela, le gouvernement envisage entre autres de diminuer l'indemnisation chômage des cadres et d'imposer un système de bonus-malus aux entreprises selon leur taux de recours au CDD, des propositions qui ont suscité l'ire du patronat et de certains syndicats. Alors l'État peut-il passer en force sans risque pour le dialogue social ? Faut-il vraiment réaliser des économies sur l'assurance chômage ? Et qui doit payer ? Voilà les questions que nous allons poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Thierry Labica nous emmène dans l'Angleterre industrielle du 19e siècle. Trois invités avec nous aujourd'hui donc. Bonjour Bruno Coquet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur affilié à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et vous êtes l'auteur avec Éric Heyer d'un rapport sur la régulation économique des contrats courts, rendu public en décembre. Rapport qui plaide pour une tarification des contrats courts, on va en parler. À vos côtés, Thomas Coutreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur des Économistes Atterrés et auteur de cet ouvrage « Libérer le travail » paru au Seuil. Et enfin par téléphone, Bertrand Martineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes collaborateur à l'Institut Montaigne et auteur de « Pour en finir avec le chômage » publié chez Fayard. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Le principe d'une indemnisation du chômage est un des fondements de notre modèle social. Il faut que le travail paye toujours plus que le chômage. Mais il existe des cas où le montant de l'allocation chômage mensuelle est plus élevé que le salaire mensuel moyen perçu antérieurement. Et ce système a évidemment pour conséquence de maintenir les chômeurs dans une forme de précarité. Deuxième sujet, nous devons revoir notre système qui permet d'obtenir des niveaux d'indemnisation pour les salaires élevés qui sont trois fois supérieurs à ce qui se passe chez nos voisins. Il est clair que les règles d'assurance chômage, qui ne protègent pas suffisamment contre la précarité, indemnisent dans le même temps à un niveau dépassant de très loin ce qui existe partout en Europe. Et ce, alors même que le marché du travail des cadres est au plein emploi.
Le Premier ministre Édouard Philippe, lors d'une conférence de presse avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mardi. Alors avant d'en venir aux différentes propositions, un premier mot sur la nécessité de redresser les comptes de l'assurance chômage. Le budget de l'UNEDIC, l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, devrait revenir à l'équilibre en 2019. Mais la dette de l'organisme pèse encore 35 milliards d'euros. Il faut donc absolument réaliser des économies, Bruno Coquet ?
L'assurance chômage est en déficit. L'UNEDIC a une dette et est en déficit. Par ailleurs, l'UNEDIC fait plusieurs choses. Si on prend son activité d'assurance chômage, les cotisations sont supérieures aux prestations depuis 25 ans chaque année, y compris pendant la crise. Donc l'activité d'assurance de l'assurance chômage, donc de l'UNEDIC, est excédentaire.
Ce sont d'autres choses qui creusent sa dette.
Ce qui pèse sur les comptes de l'UNEDIC et ce qui explique plus que 100% de sa dette, hein, puisque l'excédent du mécanisme d'assurance, c'est à peu près 2 milliards par an en moyenne dans les 10 dernières années. Ce qui pèse sur les comptes de l'UNEDIC, c'est le fait qu'on a pris l'habitude qu'elle finance des politiques publiques. Donc elle finance par exemple les deux tiers de Pôle emploi, du budget de Pôle emploi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas financer Pôle emploi ou que Pôle emploi ne doit pas être financé, bien au contraire, mais ça veut dire que la charge pèse beaucoup sur l'UNEDIC, excessivement on peut dire. Après on a les sujets comme les intermittents du spectacle qui sont une politique culturelle, sans parler de leurs droits. Qui doit financer une politique culturelle, c'est pas les autres secteurs d'activité. On a les frontaliers, il n'y a pas de chômage en Suisse, mais le nombre de frontaliers au chômage a doublé, ça coûte 700 millions par an depuis 4 ou 5 ans. Donc du coup, voilà, on a des tas de sujets comme ça qui creusent les comptes de l'UNEDIC alors que l'assurance elle-même est en excédent.
La question qui se pose, Bertrand Martineau, c'est est-ce que cette dette pourrait se résorber d'elle-même, ou est-ce qu'il faut absolument faire des économies, ou faire plus d'économies d'ailleurs, puisqu'il y avait eu déjà toute une première vague d'économies dès 2017 qui avait été effectuée.
La dette pourrait se résorber d'elle-même si on passait durablement en dessous d'un chômage, disons, de 8%, ce qu'on n'a quand même pas vu depuis 30 ans. Donc, spontanément, ce sera assez difficile. Je rejoins tout à fait le diagnostic de Bruno Coquet. Je dirais juste que le problème n'est pas tant de faire des économies, mais plutôt de baisser les charges qui pèsent sur à la fois les employeurs et les ménages, sur l'assurance chômage, qui sont les plus élevées d'Europe. Donc le problème de faire des économies, c'est pas pour rendre le système forcément plus incitatif, c'est aussi pour baisser les charges. Je rappelle que les cotisations patronales sur l'assurance chômage, c'est un peu plus de 4% de la masse salariale, donc c'est énorme. Et puis c'est 1,7 point de CSG maintenant qui passe sur l'ensemble des ménages. Donc le système d'assurance chômage en France coûte très cher au pays. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait réfléchir.
Alors le gouvernement en tout cas redoute que l'UNEDIC ne se désendette trop lentement et ne soit pas en mesure de faire face à une prochaine crise. Est-ce que c'est une inquiétude légitime? Ça va dépendre en grande partie de la conjoncture finalement, Thomas Coutreau.
Oui, on est toujours face au même phénomène où la dette d'un régime comme la dette de l'État, la dette d'un régime d'assurance chômage, est utilisé comme levier pour convaincre les allocataires ou les bénéficiaires de politiques sociales qu'il coûte trop cher et que donc il va falloir dégager durablement des excédents pour pouvoir rembourser cette fameuse dette que on a contractée par impéritie, par imprévoyance. Et cette rhétorique bien rodée, hein, qui fonctionne assez bien au niveau idéologique, ne correspond pas à une véritable réalité économique, puisque comme Bruno Coquet l'a rappelé, le régime d'assurance chômage, il est structurellement excédentaire, et c'est l'État qui met à sa charge des sommes qui n'auraient pas théoriquement à y être.
Et pourtant, donc, l'État dit qu'il y a des raisons structurelles au déficit de l'UNEDIC.
Alors, après, dire que l'assurance chômage est trop généreuse en France, qu'elle coûte trop cher, ça, c'est un jugement politique. C'est un jugement par rapport au type de modèle social, au type de fonctionnement du marché du travail qu'on souhaite. Il se trouve qu'en France, relativement à d'autres pays, comme par exemple les pays anglo-saxons, les allocations de chômage permettent une moindre perte de pouvoir d'achat par rapport à d'autres pays, relativement au salaire antérieur. Et ça veut dire qu'on préfère préserver, on a une sorte de matelas de sécurité, d'ailleurs qui sert de stabilisateur automatique lors des crises, hein, lors des récessions. On a beaucoup vanté la résilience du modèle social français lors de la grande récession 2008-2009, c'était en grande partie dû à cette assurance chômage qui permet d'amortir les chocs lorsqu'ils se produisent. Ou est-ce qu'on préfère avoir une économie extrêmement flexible avec des pertes très très brutales de pouvoir d'achat pour les gens qui passent par le chômage et une obligation immédiate de retrouver n'importe quel type d'emploi, comme c'est le cas dans d'autres pays?
Donc un choix qui est avant tout politique, Bruno Coquet.
Oui, moi je voudrais dire, l'UNEDIC ne peut pas rembourser sa dette. Vous pouvez faire les calculs que vous voulez. Il faudrait diviser les droits par deux ou trois pendant des années pour qu'on parvienne à rembourser les 35 milliards de dettes. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir d'où elle vient pour savoir si ce sont les chômeurs de demain qui doivent rembourser une dette des chômeurs d'hier. Et donc, du coup, ça, c'est pas le cas. Après, il faut avoir en tête que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réforme à faire. Il y a des choses à faire qui ne vont pas dans le système. Et il faut quand même dire que, par rapport à ce que disait Bertrand Martineau tout à l'heure, on dit que l'assurance chômage française est la plus généreuse d'Europe. C'est d'abord la plus chère. C'est un mois de salaire par an et par salarié depuis toujours. Donc c'est l'épargne de précaution des chômeurs. Ils ont beaucoup d'épargne de précaution.
Et après, des indemnisations élevées parce que les cotisations le sont également, contrairement à d'autres pays européens.
Et malgré tout, c'est excédentaire. Donc du coup, vous voyez, donc il y a plusieurs leviers. Soit on peut payer moins cher, du coup, on dépenserait moins aussi. Mais dépenser moins en payant plus cher, c'est une voie complexe à expliquer, en tout cas sur la base de ce qui n'est pas en débat, c'est-à-dire la comptabilité. Après, on peut avoir les idées qu'on veut, mais la comptabilité, c'est quand même un point dur.
Et puis, il y a autre chose qui pèse sur la dette de l'UNEDIC, c'est les nouvelles dépenses liées à l'ouverture de nouveaux droits pour les travailleurs indépendants et les salariés qui démissionnent. Bertrand Martineau, c'est aussi quelque chose qui pèse lourd pour l'UNEDIC?
Non, ça pèse pas lourd. C'est pas ça qui va déterminer, dans les années qui viennent, la trajectoire de l'UNEDIC. Et donc, pour revenir sur cette question quand même des prélèvements, l'assurance chômage, en fait, si on considère que c'est une assurance, il faut savoir si on en a pour son argent, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'elle coûte objectivement très très cher au pays, et est-ce qu'en face, les chômeurs sont effectivement bien protégés ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Et la réponse est, globalement, le compte n'est pas vraiment. C'est-à-dire qu'on paye vraiment très cher pour un système qui a des effets pervers et qui n'est pas si efficace que ce qu'on pourrait en attendre.
Alors justement, face à cela, le gouvernement a proposé un certain nombre de mesures. Il souhaite notamment durcir les règles de l'activité réduite, Bruno Coquet. C'est l'idée que certaines règles du cumul emploi-chômage n'incitent pas au retour à la pleine activité?
C'est ce qu'on dit. En même temps, il y a une étude du CAE il y a quelques années de ça sur ce sujet qui montre que la règle de cumul d'activité réduite ne coûte pas cher. Hein ? En deçà de ce coût, en fait, ça voudrait dire qu'il est coûteux pour un chômeur de reprendre un emploi. Bon. Donc du coup, et par ailleurs, il faut savoir que vous êtes obligé d'avoir une règle qui permette de cumuler des salaires et votre allocation. Parce que si vous ne le faites pas, si vous perdez 100% de votre allocation dès que vous reprenez une heure de travail, ben personne ne va reprendre de travail. Donc du coup, il faut une règle de cumul. La règle telle qu'elle existe aujourd'hui, en gros, vous gagnez un peu plus de 10% en rendement marginal, comme on dit. Et donc du coup, c'est pas très généreux. C'est une règle très efficace dans les termes où elle est actuellement.
Et alors, comment comprendre justement que le gouvernement souhaite durcir ces règles de l'activité réduite? Qu'est-ce que ça signifie très concrètement?
Je ne peux pas vous le dire. En tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est que si j'ai un point de vue assurantiel sur la règle, elle est efficace, elle n'est pas coûteuse.
Bertrand Martineau.
Oui, je suis assez d'accord. Et pareil, je n'ai aucune information sur ce que souhaite faire le gouvernement. Il a parlé d'ouvrir d'autres sujets, mais celui-là, je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que ce système, et de toute façon, est indispensable. Dans tous les pays, il y a ce genre de dispositif. Et effectivement, on pourrait même rendre la chose encore plus incitative pour que les personnes reprennent du travail, même pour quelques heures par semaine, puisque c'est bien de ça dont on parle. Donc le sujet, à mon avis, celui-là n'est pas central.
Et alors, il y a une autre mesure importante qui est annoncée, c'est la mise en place d'un système de bonus-malus pour les entreprises selon leur recours au CDD. En quoi est-ce que ce système consiste? On sait que c'est le système qui a fait achoper les négociations entre les partenaires sociaux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Thomas Coutreau? Qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est un système du type pollueur-payeur, hein, c'est-à-dire les employeurs dont les pratiques de gestion de main-d'œuvre coûtent le plus cher à l'assurance chômage devraient payer une surcotisation voilà, pour être plus responsables par rapport aux dépenses qu'ils font endurer au régime d'assurance chômage. Donc les employeurs très gros utilisateurs de CDD et d'intérim auraient une cotisation plus élevée et les employeurs qui recourent peu à ce type de pratique et donc qui alimentent peu l'UNEDIC en nouveaux chômeurs bénéficieraient de bonus, donc d'une réduction de cotisation.
Mais est-ce qu'il n'y a pas des secteurs où finalement les contrats courts, le recours aux contrats courts est plus légitime que d'autres?
Alors, d'une façon générale, c'est plutôt une bonne idée, hein, l'idée de responsabiliser financièrement les employeurs par rapport aux externalités que fait peser leur politique sur les budgets publics, sur le budget de l'UNEDIC, c'est plutôt une bonne idée. Et l'expérience internationale, c'est un système qui existe aux États-Unis où les études ont montré que c'était plutôt efficace du point de vue recherché, qui est le coût budgétaire de l'assurance chômage. Oui, il y a effectivement des professions où ça pourrait être modulé de façon différente. On pourrait imaginer une négociation de branche sur ces sujets, un cadrage légal national et des négociations de branche qui permettraient de moduler un peu cette modulation, si je peux dire. C'est tout à fait ouvert. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le patronat ne veut absolument pas entendre parler de cette responsabilisation financière des entreprises.
Bruno Coquet, sur cette mesure.
Bah, le bonus-malus, c'est un mécanisme de marché. Donc, le point, c'est qu'il faut comprendre que il y a deux formes de chômage. Vous avez un chômage qui est involontaire, lié au cycle d'activité, voilà, à la baisse de la demande macroéconomique, etc. Chômage involontaire. Après, vous avez un chômage qui dépend de choix d'organisation. Donc, un choix d'organisation, c'est quoi? C'est un employeur qui, pour un même produit, décide de s'organiser, par exemple, avec plus de contrats longs ou plus de contrats courts que son concurrent. Donc s'il a des contrats courts, ça veut dire qu'il va débaucher et réembaucher assez souvent, donc mettre des gens potentiellement à l'assurance chômage. Et puis l'argument est de dire, oui, mais il y a une demande qui s'exprime à certains moments, donc il y a des pics de demande, par exemple...
L'effet Black Friday.
Voilà, vous avez les demandes de cabriolets au mois de mai pour partir en été avec, vous avez les gens qui vont au restaurant le samedi et le dimanche, etc., etc.
Donc, ce que vous dites, c'est que certains secteurs n'ont pas tellement le choix que de recourir aux contrats courts.
Le problème, c'est pas... Oui, ils n'ont pas le choix, enfin, ça, c'est pas interdit en plus, hein, c'est la loi le permet. Le seul problème, c'est qui doit payer. Et donc, le problème est que ce ne sont pas l'ensemble des contribuables ou des salariés de ce pays qui doivent payer pour les gens qui vont au restaurant le samedi et le dimanche. Vous voyez, s'ils y vont pas, il n'y a pas de raison. C'est le client qui doit payer dans l'économie de marché. Et c'est l'employeur qui doit payer, c'est son coût de production pour ses choix d'organisation. C'est ça les règles de l'économie de marché. À partir de là, le système de bonus-malus, comme on dit, il s'inscrit là-dedans. Hein. C'est pas un mécanisme de sanction, c'est pas un mécanisme qui va consister à augmenter le coût du travail, c'est un mécanisme qui va consister à inciter les employeurs à avoir des pratiques où ils ne recourent pas à l'assurance chômage ou très peu, pour des questions d'organisation.
Mais en tout cas, comme le disait Thomas Coutreau, c'est un système qui a suscité un refus catégorique du patronat, Bertrand Martineau. Alors, cette vision de Bruno Coquet, selon laquelle c'est le client qui doit payer et non l'assurance chômage, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, le principe est parfait. Ce qui compte, le problème, c'est qu'on présente souvent cet aspect comme la taxation des contrats courts. C'est extrêmement réducteur, parce qu'en fait, le problème n'est pas tant, si on raisonne vraiment en théorie et en assurance, le problème n'est pas tant finalement s'il y a abus ou pas de contrat court. La question est de savoir si les personnes qui tournent en contrat court se retrouvent au chômage ou pas. Or, vous avez tout un tas de professions en tension où les gens rotationnent, si vous permettez ce néologisme, sur des contrats courts, mais sont très peu au chômage en fait. Donc, en revanche, vous avez des cas où vous avez quelqu'un qui est pendant 20 ans en CDI dans une boîte, qui ne se forme pas, qui arrive à 61 ans, par exemple, et on sait très bien que s'il est licencié, il ne retrouvera pas de travail, et il coûtera très cher à l'assurance chômage. Donc le problème, en fait, c'est de trouver un système qui fait payer à l'entreprise une fraction de ce qu'elle coûte réellement à l'assurance chômage, peu importe à la limite de savoir si c'est occasionné par des contrats courts, de l'intérim, du CDI avec des personnes pas formées et qui sont devenues inemployables, vous voyez ce que je veux dire. Alors quant à la proposition de Thomas Coutreau de revenir à des négociations de branche, bon, c'était la proposition du patronat, c'était effectivement de ne pas avoir de mécanisme national comme il en existe aux États-Unis, mais simplement de passer par la négociation collective. Et là, vous avez, donc ce travail a déjà été fait, c'est-à-dire que les partenaires sociaux à deux reprises ces dernières années ont renvoyé à des négociations de branche. Et évidemment, il ne s'est pas passé grand-chose parce que il y a en fait une sorte de collusion dans certaines branches entre les salariés, enfin les organisations syndicales et le patronat, finalement, où on se met d'accord un petit peu sur le dos de l'assurance chômage. Et puis par ailleurs, le patronat est évidemment vent debout contre ce genre de choses. Donc vous avez dans les branches des réticences à toper sur des accords. Et il y a eu très très peu d'accords de branche. Il y en a eu quelques-uns ces derniers mois parce que le gouvernement a mis la pression sur les partenaires sociaux. Mais en fait, je ne crois pas du tout à ce qu'on puisse scinder le problème par branche.
Puis il y a aussi des voix qui s'élèvent pour dire que ce système de bonus-malus aurait des conséquences sur l'emploi avec cette
mais
idée
oui, mais
que...
Mais attendez, le patronat, c'est normal, c'est son travail, il parle de la taxation des contrats courts. Si évidemment vous ne parlez que de surtaxation alors même que le travail est déjà très très taxé en France, c'est sûr que vous allez détruire des emplois, mais évidemment le patronat il ne raconte que la moitié de l'histoire, il ne parle pas des bonus. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien qu'il y ait des entreprises qui soient pénalisées entre guillemets par rapport à aujourd'hui, mais inversement, il doit y avoir des entreprises qui voient les cotisations d'assurance chômage drastiquement baisser. Et ça créera de l'emploi. Donc évidemment, si vous ne parlez que du malus, évidemment, vous allez détruire les emplois. Je suis absolument contre la surtaxation des contrats courts. Ça détruira de l'emploi. Il faut du malus et du bonus.
Et alors pour certains syndicats, le gouvernement a en tout cas rendu les négociations impossibles pour reprendre la main. Qu'en pensez-vous, Bruno Coquet ? Est-ce que le paritarisme, donc ce système qui garantit aux partenaires sociaux une autonomie de gestion pour plusieurs branches de la protection sociale, est-ce que ce système est aujourd'hui en danger selon vous ?
C'est ce qu'on dit. Donc on le voit bien que cet échec n'est pas un échec comme les autres. Il est arrivé une fois où c'est arrivé une fois depuis 1958 que l'État reprenne la main de cette manière, c'est en 1979. En 2001, c'était un petit peu différent. En 1979, où en fait les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord et ont passé la main à l'État, qui l'a prise pour 5 ans avant de leur redonner le système en 1984. Après, il faut comprendre que l'assurance chômage n'est pas une politique sociale. C'est une politique économique qui a des conséquences sociales. Elle est ancrée dans la production et à partir de, elle n'est pas destinée à lutter contre la pauvreté. Elle est destinée à lutter contre des périodes de non-emploi. Et qui la gère bien, potentiellement, ce sont les salariés et les employeurs. Et d'ailleurs, si on regarde historiquement, qui a créé l'assurance chômage ? Vous vous rendez compte que dans aucun pays au monde, en tout cas en Europe, depuis on développe dans les pays émergents, c'est les États qui créent l'assurance chômage. Mais sinon, dans tous les pays européens, aux États-Unis, etc., c'est jamais l'État qui a créé. C'est toujours ou des partenaires sociaux salariés en Europe ou les entreprises aux États-Unis. Et après l'État, puisqu'il a un rôle là-dedans, c'est d'homogénéiser les pratiques, de faire que l'assurance soit unique, etc. Et donc, du coup, et que les droits soient les mêmes pour tout le monde. Et donc, l'État a un rôle à jouer parce que c'est une politique, après, régalienne, puisqu'on prélève quand même une cotisation. On a le droit de prélever une cotisation, qu'elle est obligatoire, etc. Et donc, du coup, l'enjeu, il est de bien gérer l'assurance. Après, qui le fait, on s'en moque un tout petit peu, quoi.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Thomas Coutreau, de cette reprise en main par l'État de l'assurance chômage, comme c'était le cas à la fin des années 70 ?
Je dirais que, comme j'ai commencé à le dire, l'assurance chômage est quand même véritablement un choix politique. C'est un choix de société. Est-ce qu'on veut une assurance chômage qui permette aux travailleurs entre deux emplois de se retourner, éventuellement de se former, de progresser, ou de souffler ? Tout simplement, quand ils sont absolument à bout, épuisés, parce qu'il y a des emplois aujourd'hui qui sont extrêmement durs à tenir. Ou bien, est-ce qu'on veut une assurance chômage qui pousse les gens à reprendre très rapidement n'importe quel type d'emploi, quel que soit son statut, son salaire. Et ça, c'est des choix politiques. Donc moi, je suis pas totalement choqué que l'État puisse intervenir pour fixer des grands choix politiques, après un débat démocratique. Ça ne me choquerait pas du tout un côté politique à l'orientation, un côté national, un débat national autour de l'assurance chômage qui ne soit pas nécessairement du ressort du paritarisme. Après, c'est pas du tout l'état d'esprit, malheureusement, dans lequel le gouvernement essaie de reprendre les choses en main aujourd'hui, hein, puisque lui, son principal objectif aujourd'hui, c'est de faire des économies sur le dos des chômeurs. Et pour réduire les coûts, réduire les cotisations, la rengaine que nous connaissons bien aujourd'hui sur le coût excessif du travail. Peu importe que le CICE, les 20 milliards par an, il était abondamment démontré qu'ils ont un impact totalement marginal sur l'emploi. Ce dogme de la baisse du coût du travail n'est absolument pas remis en question. Et donc on s'inscrit toujours dans ce type d'orientation. Et cette fois-ci, c'est sur le dos des chômeurs.
Bertrand Martineau, sur cette remise en question du paritarisme, aussi sur le fait que le MEDEF, à cause de ce système du bonus-malus, menace d'éventuellement se retirer de l'UNEDIC.
Alors, c'est un sujet qui dépasse en fait l'assurance chômage. On est sur un vrai sujet politique de fond. Vous avez en fait traditionnellement, vous avez trois piliers du paritarisme qu'on appelle le paritarisme de gestion, c'est-à-dire des partenaires sociaux qui gèrent des caisses. Vous avez, et ces trois piliers en fait sont en train de s'effondrer. Vous avez tout ce qui est retraite complémentaire. Bon, en fait, les retraites complémentaires sont très suivistes par rapport au régime général, qui est d'origine étatique en fait maintenant. Et du coup, il y a des marges de manœuvre des partenaires sociaux sont assez faibles. La grande réforme des retraites qui s'annonce va être un peu du haut vers le bas. C'est pas les partenaires sociaux qui vont la négocier, clairement. Le deuxième pilier qui s'est un peu effondré cette année, l'année dernière, c'est la formation professionnelle. Et là, les partenaires sociaux payent le prix de ne jamais avoir réussi à réformer vraiment le système de formation professionnelle dans un système efficace, juste, pour l'économie et pour les salariés. Et le troisième pilier, qui était un peu le donjon, il restait plus que ça, en fait, il y a encore quelques semaines, c'était l'assurance chômage. Et là, effectivement, comme en matière de formation professionnelle, les partenaires sociaux payent le fait de n'avoir pas réussi à réformer le système, et en particulier ces travers les plus importants dont on va parler, et dont on va commencer à parler, qui sont l'abus de contrat court et l'incapacité des partenaires sociaux à établir des règles justes et efficaces, à la fois du côté de l'indemnisation, mais aussi du côté des cotisations payées par les entreprises, le fameux bonus-malus.
Mais, voilà. Donc, en fait, mais quelles seraient les conséquences, Bertrand Martineau, de cette étatisation de l'assurance chômage?
Bah, les conséquences, comme toujours, c'est que, en fait, elles sont, à mon avis, pas si importantes que ça, parce que les conséquences, c'est que l'État se retrouve tout seul à la manœuvre, finalement, et va porter les conséquences politiques de ses choix. Bon, mais en fait, ça c'est théorique, parce qu'en pratique, c'était déjà le cas. C'est-à-dire que jamais les Français n'ont considéré qu'une des causes du chômage, c'était l'incurie des partenaires sociaux. C'est toujours l'État qui est responsable de tout en France, de toute façon. Même chose pour la formation professionnelle, alors que l'État intervenait très peu. Mmh. Donc finalement, en théorie, c'est un changement de paradigme énorme. En pratique, ça met plutôt le droit en conformité avec les faits. C'est-à-dire que les partenaires sociaux interprofessionnels sont très faibles, relativement peu représentatifs. Et donc, en fait, ils jouent aujourd'hui, pour gérer des caisses, ils jouent un rôle qui n'est pas vraiment d'amortisseur vis-à-vis de l'État, en fait. L'État est de toute façon en première ligne.
Bruno Coquet, sur ce recul des corps intermédiaires, ce changement de paradigme.
Moi, ce que je pense, c'est que qui gère n'a pas vraiment d'importance. Dès lors qu'on a une situation où on ne sait pas ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, etc. Si vous prenez les retraites, vous avez depuis 20 ans le Conseil d'orientation des retraites qui est une espèce de table ronde qui se réunit tous les mois avec des chercheurs qui viennent expliquer la situation, les faits, leurs analyses. Autour de la table, vous avez toutes les parties prenantes, partenaires sociaux, État, etc. Bon, quand une réforme arrive, chacun a ses opinions. Mais en tout cas, ce qui n'est pas en débat, ce sont les faits. Or, l'assurance chômage, c'est exactement l'inverse. On ne connaît pas les faits. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit en début d'émission sur la comptabilité du régime, qui était que les droits sont excédentaires et que c'est cela qu'on veut réduire. Donc bon, à partir du moment où on ne débat pas et où on ne fait pas des propositions fondées sur des faits objectifs, que ce soit de la comptabilité, quel type d'objectif on a avec l'assurance chômage, quel type d'objectif on n'a pas, par exemple faire de la redistribution, etc. On voit bien que on a un problème en amont de qui gère. Et si les partenaires sociaux ont échoué, c'est bien parce que ce débat n'a pas existé. C'est aujourd'hui, l'UNEDIC, c'est 36 milliards à peu près de prestations. Qu'est-ce que c'est, 36 milliards de prestations? C'est Bouygues ou Saint-Gobain en termes de taille. Il y a zéro comptabilité analytique. Il y a eu un débat ces deux derniers jours sur les 20% de chômeurs là qui gagneraient plus pour un mois d'allocation que pour un mois de travail. Il se trouve que l'UNEDIC n'a pas le chiffre. Ce problème existe, on le connaît depuis 7 ans. Et pour autant, personne n'est capable de vous dire quel est le bon chiffre à l'UNEDIC.
Et comment l'expliquer?
Et donc, non mais plus loin, c'est donc que les partenaires sociaux n'avaient pas ce chiffre sur la table et n'estimaient pas n'était pas en capacité d'estimer que c'était un sujet de négociation. Or, une semaine après l'échec de la négociation, le gouvernement dit que c'est un sujet de négociation et l'UNEDIC n'est pas capable de fournir le chiffre. Donc du coup, on voit bien qu'on a un souci et que la meilleure façon de prendre les choses, c'est d'avoir un débat public ouvert où les faits ne soient pas contestés. Et après, chacun aura ses objectifs et son idée et ce sera beaucoup plus facile.
Un débat public ouvert sur lequel on va revenir dans un instant.
Je me levais et je prenais le métro. Direction Réaumur, mur, ça devient un peu dur. Je me ramène tout là-bas, des chômeurs, ça monte pas. Quand Paris Flash apparaît, pour l'acheter, c'est la ruée. Après s'en être emparé, faut très vite se dépêcher. Hey! Ça c'était du magasin. Y'a un gros capitaliste qui me demande de patienter. Moi qui suis vachement foutiste, j'ai bien voulu accepter. Qu'est-ce qu'il y avait comme gêne à côté de ma dégaine? Y avait 7 ou 8 vendeurs, et mais pas tellement d'acheteurs. Hey! Les vêtements étaient chers, pour faire la guerre, les lampions n'avaient partout, c'était à en devenir fou. Pour tous les pauvres chômeurs, ça appelle. Je me suis dit ça hier, mais le vieux me demande, êtes-vous spécialisé dans le service de la vente? Hey!
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était En chômage de Jean-Bernard de Libreville et nous sommes toujours avec Bruno Coquet, Thomas Coutreau et Bertrand Martineau par téléphone pour parler de la réforme de l'assurance chômage. Venons-en maintenant à une autre mesure qui a été annoncée, proposée et qui va être discutée, à la question des cadres. Selon les Échos, le gouvernement réfléchit soit à abaisser le plafond des allocations des cadres, soit à les rendre dégressives. Alors quels sont d'abord les arguments du gouvernement qui justifient ces propositions et est-ce que ces arguments vous semblent légitimes, Bruno Coquet?
Disons, on va discuter des faits. Alors, les cadres, c'est le fruit défendu à l'assurance chômage. C'est l'essentiel des recettes, des dépenses relativement marginales.
42% contre 15%, oui, c'est ce que dit, par exemple, le syndicat de cadres CFE-CGC.
Oui, quelque chose comme ça. Or, quand vous avez un bon client, vous essayez de le garder. Moi, je raisonne toujours en termes d'assureur. Et donc, quand vous êtes chez Orange, votre client idéal, c'est celui qui achète le plus gros forfait et qui s'en sert pas. Bon ben, les cadres, c'est ça. Ils sont peu au chômage, en règle générale. Leur probabilité de chômage est faible. Mais en revanche, lorsqu'ils sont au chômage, ils coûtent cher. Pourquoi ? Parce qu'ils ont payé cher. Le problème, c'est que si vous... dans l'histoire française, on est arrivé à convaincre les cadres de payer beaucoup pour un système dont ils bénéficient peu. Sauf quand ça se passe pour eux, parce que pour eux, le risque est très coûteux. Au sens où ils ont plus de mal que les autres à retrouver un emploi, ils vont mettre plus longtemps à le faire, et ils vont accepter des baisses de salaire beaucoup plus élevées. Ça, c'est pour ce qu'on sait. Donc du coup, c'est attractif, parce qu'effectivement, on peut gagner de l'argent sur les allocations, mais si on réfléchit à plusieurs coûts, c'est quand même un choix relativement risqué. Sur le point de la dégressivité, en général, pas seulement pour les cadres, la littérature économique est unanime sur le fait que ça ne marche pas. C'est-à-dire,
alors même qu'il y a beaucoup de pays européens qui ont recours à ce système.
Non, mais beaucoup de pays dans le monde. Le point, c'est que il y a une étude en France. En France, on a pratiqué la dégressivité dans les années 90. Cette étude, qui a été publiée par l'INSEE en 2001, le résumé se termine, vous pouvez vérifier, par « ça aurait ralenti le retour à l'emploi ». Et de manière, dans deux tiers de la littérature, des études théoriques, etc., on trouve que la dégressivité n'améliore pas la rapidité du retour à l'emploi et dégrade le bien-être agrégé. On va pas s'embarquer dans les détails, mais
donc c'est d'abord pour faire des économies, mais ça n'est pas vraiment efficace.
Voilà, oui. Les études économiques ne montrent pas que c'est efficace pour le retour à l'emploi et que ça coûte moins cher à l'assurance à moyen terme. Mmh. À court terme, évidemment, vous coupez. Donc, voilà.
Bertrand Martineau, je voudrais vous entendre sur cette question des cadres et notamment sur cette question du plafond d'indemnisation. En Allemagne, il est beaucoup plus bas pour les cadres. Est-ce qu'il faudrait s'inspirer du modèle allemand?
Alors, déjà, il faut voir qu'il y a une sorte de confusion mentale qui agite beaucoup de gens et peut-être aussi au gouvernement. Si vous imaginez qu'une allocation sociale peut aller jusqu'à 6100 euros net par mois, ce qui est le cas de l'assurance chômage pour les cadres très supérieurs, hein, évidemment, c'est un scandale. Vous imaginez une allocation sociale 6100 euros par mois, une allocation de solidarité. On n'a jamais vu ça nulle part, évidemment. Il faudrait évidemment la baisser. Bon. Sauf que précisément, et là on est au cœur du sujet, on est dans le cadre d'une assurance. C'est-à-dire qu'en face de ces allocations qui sont effectivement très importantes, il y a eu énormément de cotisations. Et pour revenir sur votre point de comparaison avec les autres pays, c'est que certes, les allocations au chômage sont plafonnées beaucoup plus bas dans les autres pays, parce que, en regard, les cotisations sont plafonnées beaucoup plus bas. Mmh. Et dans ce cas-là, vous avez un système assurantiel qui est totalement cohérent. Vous cotisez peu, sous plafond très bas, et vous recevez peu sous plafond très bas, ce qui fait que dans beaucoup de pays étrangers, les cadres ont des assurances privées pour compléter, parce que vous ne vivez pas évidemment avec 1000 euros par mois. Mmh. Surtout si vous avez votre maison à rembourser, les études des enfants coûteuses à l'université, etc. Bon.
Ça pose donc, la question, est-ce qu'on irait vers ce système justement de l'assurance privée?
Le gouvernement avance masqué, hein, c'est-à-dire qu'en fait il ne veut pas officiellement remettre en cause la dimension assurantielle pour aller vers un système anglo-saxon, ce n'est pas dit, mais à travers ce débat sur les cadres, en fait, vous avez un véritable débat sur la nature du système. Est-ce que vous restez dans un cadre assurantiel ou est-ce que vous êtes dans un système solidarité, c'est-à-dire est-ce que l'assurance chômage, ça doit être un peu comme un RSA un peu dopé, ou est-ce que ça doit être quelque chose d'autre, une assurance comme il en existe dans la plupart des pays?
Oui, parce qu'il y a un risque
vraiment central.
Il y a un risque réel, Thomas Coutreau, que les hauts salaires sortent du système de solidarité si les indemnisations sont amenées à diminuer.
Bien entendu, si les indemnisations pour les cadres sont plafonnées à un niveau bas, il y aura une pression politique énorme pour les sortir du système.
Sauf à diminuer d'autant les cotisations.
Bien sûr.
Ce qui ne permettrait pas de faire des économies.
Ce qui a priori n'est pas dans l'objectif immédiat. Donc vous savez, c'est un peu toujours encore le même système. C'est-à-dire on dit la protection sociale coûte trop cher, donc on va plafonner, on va réserver les sommes aux plus nécessiteux. Et puis les autres, ceux qui ont les moyens, iront se payer des assurances privées. Sauf que, évidemment, les autres, quand ils doivent se payer des assurances privées, ils sont plus d'accord pour cotiser au pot commun. Et donc, on aboutit finalement à avoir une protection sociale de pauvres, une pauvre protection sociale. Et puis, des protections privées pour ceux qui peuvent se les payer. Alors là, on est vraiment, avec cette question du plafonnement des indemnités d'écart, on est vraiment sur cette voie-là.
Mais alors, comment comprendre cette mesure, puisque il ne semble même pas qu'elle permette de faire tant d'économies que cela, Bruno Coquet?
Forcément, si vous diminuez les droits, vous allez faire un peu d'économie.
Oui, mais ceux qui reçoivent, par exemple, un montant maximal de 6 615 euros, c'est 0,05% de tous les cadres. Donc, ça ne paraît pas d'être des sommes considérables.
Oui, ce que je vous dis, c'est de manière générale, les hauts salaires sont de très bons clients. Mmh. Et un système solidaire, c'est un système qui fait contribuer des gens qui n'en bénéficient jamais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Voilà. Ça, c'est si on privatisait l'assurance chômage demain matin, c'est ce que ferait AXA. Il essaierait de déplafonner les cotisations et de déplafonner les prestations parce que c'est ça qui est rationnel, c'est ça qui rapporte de l'argent. Et donc, si vous le translatez dans une politique sociale, c'est ça qui permet d'être efficace et de limiter le prélèvement obligatoire à service constant. Par ailleurs, il n'y a pas de chômeur riche. Ça n'existe pas, un chômeur riche. Encore une fois, un cadre ce qu'on appelle un cadre, c'est-à-dire quelqu'un qui a un taux de remplacement net de 64%, quand un petit salaire a un taux de remplacement net de 96%, donc il y a déjà un transfert, ça commence à partir de 2000 euros. Donc disons, quand on s'élève dans l'échelle des salaires, le problème est que le système ne vous assure pas le maintien de votre niveau de vie si vous perdez votre emploi, vous allez devoir constituer une épargne de précaution. Et donc, si vous ne pouvez pas le faire parce que vous payez déjà des cotisations par ailleurs, ou que votre employeur les paye pour vous, c'est pareil en comptabilité nationale, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas les moyens de la constituer, cette épargne de précaution. Donc, on organise une redistribution par là. Or, en faisant une redistribution, on fait un système d'assistance sociale, sous conditions de ressources, ou en tout cas sous plafond de ressources, ce qui est le propre des systèmes non assurantiels. Et le vrai défi, c'est que ça, en matière de chômage, ça n'a jamais marché nulle part.
Voilà. Mais alors, ce que dit par exemple le gouvernement, en la personne de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, c'est que plus l'indemnisation est élevée, plus il y a une incitation à rester longtemps au chômage, Bertrand Martineau. Est-ce qu'il faut croire le gouvernement, ou est-ce que c'est avant tout pour faire des économies, encore une fois?
On n'est pas dans l'ordre de la croyance. Je pense que on va en rester à des choses très simples. On a un gouvernement qui, d'ailleurs, comme ses prédécesseurs, est à la rue en termes de finances publiques. C'est-à-dire que le pays va dans le mur, on le sait. Bon, donc il faut faire des économies. Donc, une façon de faire des économies, évidemment, c'est de ne pas laisser les 35 milliards de l'UNEDIC sans économie. Donc, on va faire des économies. Et donc, pour ça, baisser le plafond des cadres, en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous passez le plafond d'indemnisation de 6100 aujourd'hui à 5000, c'est sûr que vous allez faire très peu d'économies. Mais si vous voulez faire des centaines de millions d'économies, baissez-le à 3000 euros, 2500, 2000 euros. Et là, vous allez faire énormément d'économies. Donc, je crois qu'il ne faut pas... Il ne faut pas aller chercher des choses très sophistiquées dans la volonté du gouvernement. Il a une équation budgétaire et financière extrêmement compliquée, donc il cherche des économies partout.
Donc c'est toujours. Surtout de la rhétorique.
Alors, maintenant, sur la question de l'incitation des cadres, la seule étude que je connais, c'est un sondage. C'est Pôle emploi qui a publié l'année dernière une étude sur le contrôle de la recherche d'emploi, et il a calculé pour la première fois, quand même depuis le temps que l'assurance chômage existe, on a calculé la proportion de chômeurs qui étaient contrôlés cherchant insuffisamment de l'emploi. Et on s'est aperçu que la proportion de ces personnes qui cherchaient insuffisamment de l'emploi était en moyenne de 8% pour les personnes indemnisées. Et en ce qui concerne les cadres, c'était 4%. Donc les cadres, apparemment, sont des gens, si on en croit cette étude, sont des gens qui cherchent plutôt plus activement du chômage que la moyenne. Et c'est tout à fait normal, parce que comme me dit Bruno Coquet, le taux de remplacement, donc quand vous êtes au chômage et que vous êtes un cadre, au-delà de 2500-3000 euros par mois de salaire, vous avez quand même une perte de revenus de l'ordre de 35%. C'est quand même une sacrée incitation à retrouver du travail. Donc c'est pas très étonnant que les cadres cherchent activement du travail. Bruno. Les seuls cadres qui sont chômeurs de longue durée, ce sont des cadres qui sont à 2 ou 3 ans de la retraite et qui sont objectivement dans une situation où il est très très difficile de retrouver du travail.
Bruno Coquet.
Alors après, sur le fait, la ministre a raison. Elle dit, quand on s'élève dans l'échelle des salaires, la durée du chômage augmente. C'est vrai. Le point, c'est qu'il faut voir pourquoi. Donc, ce que l'on sait, c'est que, d'abord, l'assurance chômage augmente la durée du chômage, toujours, pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que, justement, ça vous permet d'attendre, de maintenir votre consommation en attendant de retrouver un emploi conforme à vos compétences. C'est ça, la mission de l'assurance chômage.
La question, c'est est-ce que c'est une chose positive ou négative ? Alors, en l'occurrence, dans la bouche de la ministre, c'est une chose négative, que ça dure plus longtemps.
D'accord. Donc du coup, l'attente, c'est que ça dure plus longtemps. Et ça va durer d'autant plus longtemps que la sanction en fin de droit va être importante. C'est-à-dire, quelles concessions vous allez être obligé de faire pour reprendre un emploi. Et donc, avant de dire c'est trop long, il faut quand même regarder quel est le type de sortie qu'obtiennent les gens dont la durée d'indemnisation est longue. Par ailleurs, ce qu'a cité Bertrand Martineau sur Pôle emploi, l'étude Pôle emploi est vrai. Si on est dans le cas de gens qui fraudent, c'est-à-dire qui restent trop longtemps au chômage alors qu'ils reçoivent des offres d'emploi qu'ils pourraient accepter parce qu'elles correspondent à leurs compétences et qu'elles sont bien payées. Là, on est dans l'ordre de la sanction. Il y a des sanctions pour ça. Modifier la règle générale pour quelques personnes qui fraudent, c'est toujours sous-optimal. Troisième point, c'est les études économiques recherchent ce qu'on appelle de l'aléa moral. C'est-à-dire les gens qui resteraient trop au chômage, qui seraient trop frileux dans leur recherche d'emploi parce que c'est trop confortable. En France, les études montrent que l'aléa moral est 2 fois moins important en moyenne que partout ailleurs. Et donc, du coup, on n'a pas ce phénomène de mauvaise incitation à la reprise d'emploi.
Et pourtant, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la pression sur les chômeurs s'accroît. Thomas Coutreau, on a évoqué la possibilité de diminuer, par exemple, la durée d'indemnisation. Mais il y a aussi un décret qui est paru le 30 décembre 2018 et qui prévoit un mois de radiation au lieu de 15 jours si on ne se présente pas à un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi, et une suppression de l'allocation après 2 refus d'offres jugées raisonnables d'emploi. On voit que la pression et les contrôles s'accroissent.
Oui, on a un refrain, voire même une rengaine de la part du patronat sur les métiers en tension, les difficultés de recrutement. On n'arrive pas à recruter dans tel et tel secteur et les métiers sont bien repérés. Alors il y a des métiers assez qualifiés, très qualifiés, comme les ingénieurs informaticiens par exemple, où il y a un turnover assez important et une offre de main-d'œuvre insuffisante, relativement faible. Et puis il y a surtout beaucoup de métiers peu qualifiés, des ouvriers non qualifiés dans le bâtiment, des manutentionnaires, des aides-soignants dans les EHPAD aujourd'hui, il y a d'énormes difficultés pour trouver des personnes qui acceptent ce genre de métier, des cuisiniers, des coiffeurs.
On renforce les contrôles pour pousser les chômeurs à accepter
donc,
ce genre de travail.
Voilà, il s'agit de pousser les chômeurs vers ces emplois peu qualifiés, mal rémunérés, à des conditions de travail extrêmement difficiles, pénibles, voire dangereuses, et avec des contrats précaires. Et donc, le renforcement du contrôle des chômeurs, des sanctions, et aussi, bien sûr, les restrictions qui vont être apportées à l'indemnisation des contrats courts vont toutes dans ce sens d'obliger les chômeurs à traverser la rue, comme nous l'a dit Emmanuel Macron. Il faut que, indépendamment de votre formation, de vos qualifications et de vos envies, de vos goûts, il faut que vous acceptiez les emplois qu'on vous propose.
Et le risque, c'est, et ce sera ma dernière question, Bruno Coquet, c'est que finalement, les chômeurs acceptent un travail à n'importe quel prix et viennent grossir les rangs des travailleurs pauvres, comme ça a pu être observé en Allemagne après les réformes dans les années 2000.
Alors globalement, l'Allemagne va mieux après les réformes. Ça, faut quand même dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que le système fonctionne bien et que il n'y a pas besoin de réformes aujourd'hui. Il faut le réformer, il faut avancer. Il y a des choses à faire.
Après, il y a plus de travailleurs pauvres tout de même en Allemagne qu'auparavant.
Après, le point, c'est que l'économie allemande, elle tracte l'ensemble, même s'il reste des mini-jobs, il reste 600 000 mini-jobs aujourd'hui, 600 000 mini-jobs, le point c'est que, comme on offre des emplois, il y a des opportunités pour les chômeurs. Hein. En France, ou dans des pays où il y a beaucoup de chômage, si vous faites plus pression sur les chômeurs sans créer d'emplois, évidemment, vous les orientez vers des emplois plutôt précaires. Donc il faut créer des emplois par ailleurs, alors ce qui se passe plutôt en ce moment, mais bon.
Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de cette discussion. Bruno Coquet, Thomas Coutreau et Bertrand Martineau. Bruno Coquet, je rappelle votre livre Un avenir pour l'emploi, sortir de l'économie administrée chez Odile Jacob. Thomas Coutreau, Libérer le travail au seuil. Et Bertrand Martineau, Pour en finir avec le chômage, c'était chez Fayard. Un grand merci de nous avoir aidé à décrypter les enjeux complexes de cette réforme de l'assurance chômage. Il est 14h45 sur France Culture et comme chaque vendredi, on vous propose une œuvre classique ou contemporaine de la littérature économique. C'est la bibliothèque idéale de l'écho du vendredi. Cap sur l'Angleterre aujourd'hui. Le livre que nous avons choisi est signé Edward Palmer Thompson, un historien britannique dont l'œuvre a infusé en profondeur l'ensemble des sciences sociales. La formation de la classe ouvrière anglaise, c'est le titre de cet ouvrage qui propose une histoire de l'Angleterre par le bas. Et c'est Thierry Labica qui est venu nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en études britanniques à l'université Paris-Nanterre. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter en quelques mots Edward Thompson, Thierry Labica?
Edward Thompson, c'est la génération des grands historiens britanniques de l'après-guerre des années 50 et 60 qui sont communément liés au PC britannique. On les appelle le groupe des historiens communistes ou du PC anglais et plusieurs sont très connus en France parce que leur production et leur aura étaient telles qu'ils ont été lus très au-delà de leur milieu. Alors le plus connu d'entre eux avec Thompson, c'est Eric Hobsbawm, dont on a traduit beaucoup de livres dans beaucoup de langues, mais notamment en français, l'un des plus connus dans la période récente étant l'histoire du cours au XXe siècle, l'âge des extrêmes. Et puis les autres sont le grand historien du XVIIe siècle, Christopher Hill, etc. etc. Donc c'est tout un groupe d'historiens qui a marqué tout ce moment-là de l'après-guerre et qui a produit autour de Thompson en particulier ce courant que vous venez de mentionner, c'est-à-dire d'histoire par en bas.
Alors justement, dans quel contexte est-ce que sa grande œuvre, la formation de la classe ouvrière anglaise, est-elle publiée en 1963, Thierry Labica?
Thompson écrit ça en vis-à-vis de l'histoire coloniale britannique, en train de se défaire, et en vis-à-vis de l'histoire de l'État-providence britannique. Dans les années 50, tout le monde a sous les yeux, les Britanniques ont sous les yeux, Thompson a sous les yeux, la décolonisation de l'Asie du Sud-Est. La Birmanie, la Malaisie en particulier, après l'Inde, après 47. Bon, et là, on a dans ce contexte colonial-là des grandes insurrections armées des classes agraires, de la paysannerie agraire, notamment d'origine chinoise en Malaisie. Et donc, si vous voulez, on a une confirmation en acte de ce que Thompson va défendre historiographiquement par rapport à la classe ouvrière anglaise pré-industrielle, semi-industrielle, encore agraire du début du 19e siècle. Et donc là, on a ce monde agraire en rébellion anticoloniale, qui n'est finalement pas ce monde agraire réactionnaire rétrograde, mais à caractère révolutionnaire. Au moins, à cette époque-là, on a des raisons de le penser. Donc il y a ça d'une part.
Et l'État-providence de l'autre.
Et de l'autre, il y a un État-providence qui n'est pas un État socialiste. C'est l'État-providence mis en route par les travaillistes, enfin pas seulement, mais enfin principalement par les travaillistes après 45. Et c'est un État qui croit au progrès social de diverses manières, bien entendu, mais qui pratique fondamentalement une forme de paternalisme autoritaire, dans lequel les gens ordinaires, le monde du travail, les travailleurs, les femmes ne sont pas présumés en capacité de produire eux-mêmes démocratiquement à la base les réformes sociales, cette idée que l'homme et la femme du commun sont incapables d'être bons gestionnaires, en gros.
Il critique d'ailleurs beaucoup la condescendance des intellectuels
absolument,
sur les ouvriers.
Absolument. Donc cette condescendance de l'intellectuel, c'est aussi une condescendance de l'ensemble de la forme étatique progressiste, paternaliste, autoritaire de l'après-guerre. Et donc, quand il publie en 63, il est à la veille d'une résurgence très forte de l'agitation syndicale et ouvrière qui va donner bon tout ce moment transgressif ou subversif des années 60 qu'on connaît bien, et en Grande-Bretagne, des années 70, où là, les expériences du contrôle ouvrier, de la prise en main, de la production, de l'organisation, de la conception même du travail, va aller très loin avec des grandes expériences ouvrières sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. Et donc là, on a une espèce d'anticipation intellectuelle dans le champ historiographique avec Thompson, de ces grandes expériences de contrôle ouvrier, d'initiative et d'émancipation populaire sur toutes sortes de terrains, les minorités, les femmes, les étudiants, les milieux, la classe ouvrière britannique de la période industrielle finissante, disons.
Alors revenons un peu en arrière, Thierry Labica, si vous le voulez bien. Comment est-ce que la classe ouvrière anglaise se forme à la fin du XVIIIe siècle, selon Thompson? Et surtout, comment est-ce qu'elle se forme à partir d'une foule d'ouvriers très différents entre eux? C'est ce qu'explique Thompson.
Il prend un moment qui est vraiment le moment de la Révolution française, en gros, et le tout début du XIXe siècle. Donc un moment révolutionnaire et un moment contre-révolutionnaire. En Grande-Bretagne, le début de la révolution industrielle, mais c'est un moment intensément contre-révolutionnaire, le début du XIXe siècle. Pour Thompson, cette question-là se pose prioritairement à la critique de diverses formes de déterminisme et d'économisme. Alors, il y en a deux principalement. Il y a l'économisme des historiens de l'économie, qui présume que les mouvements populaires, les bas ordres de l'ancien régime s'agite, se manifeste par spasme. L'expression est employée. Alors Thompson a des polémiques terribles contre cette idée que les hommes et les femmes ordinaires dans la campagne anglaise au début du XIXe siècle ou à la fin du XVIIIe siècle se manifestent par spasme parce qu'ils n'ont plus rien à bouffer et que les prix augmentent. Et donc il y a cette idée que les gens ne réagissent que s'ils ont l'estomac vide. Donc il y a une vision finalement de type à la fois mécaniste et animal de l'agir populaire. Alors il y a ça d'une part, et les polémiques là-dessus sont très dures et on les retrouvera dans des essais ultérieurs. Et puis il y a une critique d'un économisme et d'un ouvriérisme selon lequel la position de classe est en quelque sorte assignée de l'extérieur par la structure sociale. Bon. Et donc les milieux populaires ne seraient pas acteurs de la production de qui ils sont socialement et collectivement. Et donc Thompson va essayer de reconstruire la dynamique par laquelle il y a à la fois des déterminations objectives et en même temps une participation subjective, collective, active à la construction d'une classe et d'une conscience de classe.
La classe ouvrière se créa elle-même tout autant qu'on la créa, voilà ce qu'il écrit à ce moment-là, Thierry Labica.
Oui, ben c'est la citation classique qui est un très très bon point d'entrée parce que les concepts qui vont être typiques de Thompson sont des concepts qui répondent à cette passivité présumée dont je viens de parler. Il y a cette idée que les gens ordinaires, les bas ordres, la classe ouvrière descendante est passive et sa classe et son agir est assigné de l'extérieur. Et Thompson nous dit non, elle est active. Et le concept de cette activité de classe, le grand concept, ça va être le concept de agency. Et agency, on est toujours un peu embêté pour le traduire en français, ce mot-là. Bon, mais ça renvoie à la capacité à être acteur, la capacité à agir collectivement et individuellement, et à produire ou intervenir sur son environnement, ses conditions, dans des rapports de forces sociaux qui existent objectivement.
Ce qui est intéressant avec Thompson, c'est aussi qu'il parle de la question de la formation de la conscience de la classe ouvrière, et notamment, c'est en lien avec l'élan révolutionnaire des années 1790 en Angleterre. Comment se forme justement cette conscience de classe, selon Thompson?
Dès lors qu'on a dit que la classe ouvrière est active, quel est le répertoire, quel est l'équipement mental, si vous voulez, qu'elle mobilise pour exister collectivement et pour légitimer sa propre action? Toute l'entreprise de Thompson, elle va consister à reconstituer, si vous voulez, cet équipement mental et à regarder à partir de quel répertoire les acteurs légitiment leur propre action. Alors ce répertoire, qui est constitutif de cette conscience, c'est une espèce de bric-à-brac, on pourrait dire, d'idées de la justice, d'idées du devoir moral des classes dirigeantes, de connaissance des rituels et des cérémonies religieuses, et de braconnage, on pourrait dire, de gestes rituels et cérémoniels, de valeurs religieuses, d'utilisation de la Bible. Cette conscience de classe et cette formation-là, elle requiert, de la part de l'historien par en bas, qui est Thompson, la reconstitution de l'ensemble de ces données, parmi lesquelles il y a des éléments rétrogrades, il y a des éléments réactionnaires. L'attente que l'aristocratie, non pas qu'on se débarrasse de l'aristocratie, mais qu'elle remplisse son rôle moral, son rôle protecteur.
Et donc, il va s'appuyer sur un certain nombre de textes, de chansonnettes. Il est particulièrement attentif à la diversité des expériences du travail manuel, Thierry Labika.
Alors, c'est la grande difficulté de cette histoire, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il il s'agit de trouver une archive de gens qui ne laissent pas d'archives. Les discours des gens célèbres, etc., leurs faits et gestes sont connus. On connaît même, je ne sais pas, le nombre de fois où le roi George III est allé aux toilettes dans la période où il était fou. Bon, là, on a des gens qui ne laissent peu ou pas d'archives. Et donc, on a dans ce livre-là, comme d'autres livres des historiens par en bas, souvent des introductions qui nous disent on va écrire l'histoire de gens dont on ne peut pas écrire l'histoire. Et donc, il y a un travail de constitution de corpus, à partir de petites ritournelles, de poésie, de littérature populaire, qui est quelque chose d'extrêmement impressionnant du strict point de vue du travail de l'historien.
Et il y a du coup, ce qu'on observe dans cet ouvrage, c'est la part aussi qui est accordée à l'émotion qui ressort de ces archives, Thierry Labika.
Ben oui, parce que en gros, voilà, il y a des places et des positions et des rôles dans une structure sociale qui sont assignés de l'extérieur. Là, on voit apparaître des subjectivités, on voit des personnages qui ont une part romanesque, on pourrait dire.
Thompson... Ça a d'ailleurs été reproché à Thompson. On a dit que son histoire était trop romantique, justement.
C'est ça. On a beaucoup parlé de romantisme, comme à la fois avec un mélange d'admiration, parce que c'est un très bon écrivain. C'est un écrivain magnifique, un polémiste acéré, terrible, terrible. Il ne faut pas se fâcher avec lui, parce que bon. Mais en même temps, ça pouvait se retourner contre lui, parce qu'il se dit t'écris drôlement bien, bonhomme, mais finalement, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Alors effectivement, chez Thompson, il y a une validation d'une forme de nostalgie romantique, notamment pour comprendre la critique de la mécanisation par les briseurs de machines. Alors dans The Making of the English Working Class, vous avez comme un livre dans le livre sur les ludites. Les ludites sont les briseurs de machines.
Dans les années 1811-1812.
Exactement, juste à la fin des guerres napoléoniennes. Et donc... on a toute une charge de subjectivité à la fois en rébellion et à la fois fonctionnant avec un certain nombre de, si vous voulez, d'attendus et de caractères rétrogrades qui produit une image aussi ambiguë que l'est n'importe quel être humain dès lors qu'on le voit pas sous un cadre sèchement théorique, si pour le dire vite.
C'est en tout cas un livre qui bat en brèche la vision du Royaume-Uni comme le pays de la réforme face au pays de la révolution, ouais. Que serait la France.
Il y a l'idée que la Grande-Bretagne est le pays de la stabilité, de la continuité par opposition à une Europe qui a connu des guerres, des révolutions, etc., etc. Bon, donc il y a tout un grand récit national que Thompson, effectivement, avec cette histoire-là, bat en brèche, oui.
Il montre les répressions, par exemple, dont font l'objet un certain nombre d'émeutes d'ouvrières.
Alors, il y a tout ça, et puis il montre aussi la circulation des idées révolutionnaires du jacobinisme en Grande-Bretagne, et de ces milieux. Alors, il y a les milieux connus, littéraires, ces écrivains importants, mais il y a aussi une diffusion beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus fine, beaucoup plus large, des slogans de la Révolution française, des idées de la Révolution française, et Thompson fait aussi ce tableau-là, notamment dans sa porosité avec la migration irlandaise au début du XIXe siècle.
Pour finir, Thierry Labika, pourquoi est-ce qu'il faut, selon vous, relire la formation de la classe ouvrière anglaise d'Edward Thompson ?
Bah, écoutez, comme beaucoup de livres longs et réussis, un livre long, ça...
1000 pages, tout de même.
Oui, c'est ça. Ça transforme un peu, parce qu'on a un temps d'immersion dans le bouquin, du récit, du ton de l'auteur, qui laisse une trace longue, quoi. Thompson nous parle d'un moment où la classe ouvrière émerge, alors que ces formes organisationnelles connues, les partis, les syndicats, les campagnes électorales, tout ça n'existe pas encore. Donc on est dans l'avant de toute cette institutionnalisation, légalisation de la classe ouvrière. Or aujourd'hui, alors à grande distance, il faut se méfier des analogies, mais on est quand même dans un moment historique où les formes organisationnelles classiques de la classe ouvrière sont assez mal en point en général, et où, en même temps, les formes d'activité, d'agitation restent très importantes. Alors, évidemment, le cas de, on a des formes de mobilisation qui ne sont pas organisées par les forces organisées classiques, mais qui ont des logiques internes avec des attentes morales. Alors, la question des gilets jaunes devient tout de suite à l'esprit. Et les catégories thomsoniennes et le type de regard que porte Thompson sur les mobilisations et la radicalité sociale, là, elle est une source d'inspiration considérable pour ce type de mouvement.
En quoi concrètement Edward Thompson pourrait nous aider à comprendre cette crise des gilets jaunes?
Là, on voit beaucoup d'images de casse, de une forme de sauvagerie, l'idée que le mouvement, alors, il y a de l'extrême gauche, il y a beaucoup d'extrême droite, il y a ci et ça. Là, on a un regard qui exige de la patience et qui exige de reconstituer de l'organisation, des paramètres moraux, des paramètres politiques, là où ces paramètres n'ont pas été préalablement donnés par une organisation, avec un programme, avec des statuts, avec un texte fondateur, etc. etc. Et donc, l'organisation existe, à la fois pratique et morale, et Thompson nous apprend à avoir la patience de redémêler, de reconstituer le bric-à-brac de positions réactionnaires, de positions progressistes, les ambiguïtés qui traversent tout mouvement social de cette nature.
Merci beaucoup Thierry Labica. La formation de la classe ouvrière anglaise d'Edward Thompson est paru au Seuil, et je renvoie les auditeurs à l'ouvrage que vous venez de publier, L'hypothèse Jérémy Corbyn, une histoire politique et sociale de la Grande-Bretagne depuis Tony Blair, paru chez Démopolis. Merci beaucoup.
Merci.
Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Who Runs the World? Les femmes, bien entendu, c'est Beyoncé qui le dit, et ce sera le sujet de notre série à partir de lundi. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.